franceinter.fr.
Bonjour. Surveiller Internet, ce nouvel espace de liberté pour le meilleur et parfois pour le pire, c'est devenu un enjeu majeur dans nos sociétés connectées. Depuis quelques décennies, le marché des systèmes de surveillance électronique s'est développé et la France est plutôt en pointe dans ce domaine. Quand il s'agit de traquer sur Internet des délinquants ou des criminels, dans le cadre d'une procédure clairement encadrée, cela peut se comprendre. Mais quand ce sont des régimes autoritaires qui achètent de tels systèmes pour repérer, arrêter et torturer, voire tuer leurs opposants, cela pose problème. Deux entreprises françaises, Amesis et Cosmos, se retrouvent ainsi accusées de complicité de torture pour avoir vendu à la Libye de Kadhafi et à la Syrie de Bachar el-Assad des technologies de surveillance électronique. Accusation dont elles se défendent, comme vous pourrez l'entendre dans le reportage qui va suivre, mais qui pose la question de la réglementation de l'exportation de ces systèmes que les défenseurs des droits de l'homme considèrent comme de véritables armes. Internet, arme française de répression massive, c'est un reportage de Benoît Colomba.
Interception, le magazine de la rédaction.
Là, nous sommes dans les rues d'Istanbul, en Turquie, dans le centre-ville d'Istanbul, pas très loin de la place Taksim. Nous allons rencontrer des Libyens, des ex-opposants à Kadhafi, des Libyens qui sont venus de Benghazi, de Tripoli, de Misrata, qui sont venus ici pour nous rencontrer dans un hôtel de la ville pour nous raconter leur histoire.
Je m'appelle Raïda, je suis blogueuse. J'écris depuis 2006. Je suis issue d'une famille d'opposants historiques à Kadhafi. Mon père et ma mère ont déjà été arrêtés par le passé. J'ai créé un cercle des blogueurs libyens. Comme on n'avait pas la possibilité de faire grand-chose en Libye, les gens comme moi utilisaient beaucoup Internet, Facebook ou YouTube. En plus de ma page Facebook, j'avais une page Internet que j'actualisais en permanence avec toutes les informations sur le pouvoir qui pouvaient intéresser les Libyens et dont ils n'avaient pas forcément connaissance par ailleurs. En janvier 2011, j'ai publié toute une série d'articles appelant à un changement de régime. Je pensais que la situation ne pouvait pas durer ainsi. En Tunisie, ils réclamaient la liberté, alors j'appelais les Libyens à faire la même chose. Je leur disais « Sortez de chez vous, parlez librement ». Je voulais un changement démocratique, pacifique. Le 10 février 2011, j'ai publié un article pour expliquer que si on n'instaurait pas la liberté d'expression en Libye, j'allais m'immoler par le feu, comme l'avait fait un homme en Tunisie. Suite à ce message, une Amazone de Kadhafi qui s'appelait Mabrouka est venue me chercher chez moi pour m'emmener au palais de Bab el-Azizia. Là, j'ai rencontré Kadhafi.
Kadhafi, vraiment, en personne?
Oui. Peut-être qu'il craignait que j'aie de l'influence sur la population. Donc j'étais en train d'attendre, assise dans un salon, et soudain, Kadhafi est entré dans la pièce. Nous nous sommes serrés la main et il m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu veux t'immoler ?» Je lui ai répondu « Pourquoi est-ce que vous interdisez YouTube et tous les sites internet indépendants ou étrangers ?»
Est-ce que Kadhafi vous a mis en garde et vous a fait comprendre qu'il surveillait les activistes du net comme vous ?
Non, il ne m'a pas menacé. Je savais que je parlais à Kadhafi et que je devais faire attention à ce que je lui disais. Je parlais de façon mesurée. Mais sa réponse était un peu décalée. Il m'a proposé d'écrire des textes pour lui. Il voulait que j'écrive pour son propre site internet. Je lui ai fait comprendre que ce n'était pas vraiment possible. Je ne voyais vraiment pas ce que j'aurais pu écrire pour lui. Deux jours plus tard, j'étais arrêtée. Là, ils ont commencé à me poser toujours les mêmes questions. Pour qui tu travailles ? Qui se cache derrière toi ? Je ne répondais rien, je ne voulais mettre personne en danger. Comme ils n'obtenaient rien de moi, au bout d'un moment, ils m'ont montré des documents, des textes que j'avais rédigés sur mon compte Facebook, d'autres sur ma messagerie, des conversations sur mon compte Skype.
Il y avait beaucoup de documents ou c'était juste quelques mails ?
Non. Ah, ce n'était pas juste quelques mails, c'était énorme, au moins 200 pages. J'étais vraiment choquée. Je ne pensais pas que le régime disposait d'une telle technologie pour surveiller et contrôler la population. Qu'il était capable de contrôler les choses à ce point. Les mails, les conversations... Je ne savais plus où j'en étais. C'était comme si une armée électronique avait pris le contrôle de ma vie. Alors je les ai suppliés de me relâcher. Mais ils m'ont dit, c'est impossible, on ne peut pas vous relâcher. Pour vous relâcher, il nous faut un ordre d'Abdallah Senoussi, le chef des services secrets. Ensuite, ils m'ont emmené à la prison d'Abu Salim, à Tripoli, où j'ai tenté de me suicider.
Je m'appelle Salah, j'ai 47 ans. Je travaille comme comptable pour le gouvernement. Ils m'ont arrêté le 3 janvier 2011. C'était le matin, sur mon lieu de travail. J'avais envoyé beaucoup d'emails à une personne qui est connue pour être un opposant au régime de Kadhafi. En fait, tous mes messages critiquaient le régime, les autorités, Kadhafi. J'utilisais un compte mail personnel, pas de Facebook. Je faisais des comptes rendus de ce qui se passait un peu partout dans le pays, dans la rue, et j'envoyais tout ça par mail. Je crois savoir comment ils m'ont repéré. Je me souviens avoir mentionné mon nom dans l'un de ces emails. Quelques jours après que je l'ai envoyé, la police a débarqué à mon travail pour m'arrêter. Un policier m'a accompagné jusque chez moi pour confisquer mon ordinateur et le ramener dans les locaux des services de sécurité libyens. On m'a emmené dans une prison à Tripoli. Là, on vous torture pour vous faire craquer et dire tout ce que vous savez. C'était un policier qui m'interrogeait. Enfin, je crois qu'il était policier, mais il était en civil. Il m'a montré la copie d'un email en me disant « C'est ton email ? Si c'est bien le tien, tu dois nous donner ton mot de passe. » J'ai nié. J'ai dit que ce n'était pas moi qui avais envoyé cet email. Que je n'avais aucun mot de passe à leur donner. Alors ils m'ont torturé. Ils m'ont envoyé des décharges électriques dans le corps. Ils m'ont attaché les mains dans le dos. Ils m'ont insulté. J'étais terrorisé. Ça a duré pendant 2 jours. Mais au bout de 2 jours, je n'en pouvais plus. J'ai craqué. Je leur ai demandé d'arrêter, je leur ai donné mon mot de passe et j'ai avoué. Oui, c'est bien mon email. Alors ils m'ont dit, mais on le sait depuis le début que c'est ton email. Et ils m'ont montré un dossier dans lequel il y avait des quantités de mails que j'avais envoyés. Ils m'ont bien fait comprendre qu'en fait, ils s'en fichaient d'avoir mon mot de passe, parce qu'ils savaient déjà tout sur moi. Ils m'ont relâché le 25 janvier, mais avant de me relâcher, ils m'ont emmené voir Abdallah Senoussi.
Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi, le chef des services spéciaux, des services secrets libyens, et qui, en France, a été condamné pour terrorisme.
Oui, maintenant il est emprisonné à Tripoli. Donc j'ai vu Senoussi qui m'a dit « Soit tu vas dans une prison secrète pendant 10 ans, où personne ne te retrouvera, soit on t'exécute. » Le garde qui m'avait amené dans son bureau a essayé de convaincre Senoussi de me libérer, en disant que j'étais quelqu'un de bien et que si on me libérait, je ne recommencerais plus. Finalement, Senoussi a dit « D'accord, je te libère, mais tu nous laisses ton passeport. Interdiction de faire le moindre mouvement sans le signaler à la police. » Je suis sorti, mais je n'étais pas vraiment libre. Les services de Kadhafi m'appelaient chaque jour pour savoir où j'étais et ce que je faisais. À chaque fois que leur numéro s'affichait sur mon téléphone portable, j'étais terrorisé. Ça a duré jusqu'à la chute de Kadhafi, en février 2011.
Ce jour-là, 3 autres témoins se confient à notre micro. Tous racontent la même histoire. Surveillance électronique, arrestation, puis torture, jusqu'à la chute du régime de Kadhafi. En juin 2013, ses opposants libyens ont été entendus sur procès-verbal par des juges d'instruction français à Paris. Des juges du pôle génocide et crimes contre l'humanité qui mènent l'enquête. Car depuis 2011, la Ligue des droits de l'homme et la FIDH ont déposé plainte pour complicité de torture contre la société française Amesis, une filiale du groupe Bull. En 2007, Amesis a vendu à la Libye un programme baptisé Eagle qui permettait au régime de Kadhafi de traquer les opposants sur Internet. Clémence Bechtart est la coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH.
Ce que nous soutenons au terme de cette plainte et dans cette procédure en tant que partie civile, c'est qu'en vendant ce type de technologie, eh bien la société Amesis, en le vendant à un régime tel que celui de Muammar Kadhafi, ne pouvait ignorer l'utilisation qui en serait faite. Et qu'en concevant cette technologie, dans la description également commerciale qu'ils en ont faite, ils ne pouvaient ignorer que cela serait utilisé par le régime de Kadhafi, par Senoussi et ses hommes, pour mieux identifier, arrêter et réprimer les opposants. Et puis aussi la réalité du régime libyen, parce que le régime libyen n'est pas devenu répresseur uniquement au moment de la révolution et de la répression du printemps arabe qui a eu lieu en Libye. Le régime de Kadhafi, malgré sa réhabilitation sur la scène internationale dans les dernières années avant 2011, on savait que le régime s'illustrait encore par de graves violations des droits de l'homme, par un recours récurrent et quasi systématique à la torture. Et donc à partir de là, lorsque la société Amesis fournit un logiciel qui permet aux services de renseignement, aux services de Senoussi, d'intercepter des emails, des échanges de communications électroniques à l'aide de mots-clés, eh bien, ils savent forcément que les mots-clés qui pourront être utilisés seront droits de l'homme, manifestations, tracts et autres.
Au moment où ce programme est vendu à la Libye en 2007, les proches de Nicolas Sarkozy opèrent un rapprochement spectaculaire avec le régime libyen. Avec à la manœuvre l'intermédiaire Ziad Takieddine, mis en cause dans l'affaire Karachi. L'homme d'affaires franco-libanais organise des visites à Tripoli pour Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Sarkozy, puis secrétaire général de l'Élysée. Taqieddine est notamment en lien avec Abdallah Senoussi, l'homme clé du régime libyen, condamné par la France pour son rôle dans l'attentat contre le DC-10 du TA. Le même Taqieddine est au cœur des contrats signés avec la Libye pour vendre du matériel de surveillance, y compris un 4x4 sécurisé pour Kadhafi avec la technologie Amesis. L'intermédiaire empoche 4,5 millions d'euros de commission sur des comptes offshore. Contacté, Amesis n'a pas souhaité répondre à nos questions, nous renvoyant sur ses communiqués de presse.
Amesis conteste très fermement l'accusation de complicité d'actes de torture dont elle est l'objet. Amesis a signé un contrat en 2007 avec les autorités libyennes. La livraison du matériel a eu lieu en 2008. Le contrat concernait la mise à disposition d'un matériel d'analyse portant sur une fraction des connexions Internet existantes. Il n'incluait ni les communications Internet via satellite, utilisées dans les cybercafés, ni les données chiffrées type Skype, ni le filtrage de sites web. Le matériel utilisé ne permettait pas non plus de surveiller les lignes téléphoniques fixes ou mobiles. Ce contrat a été signé dans un contexte de rapprochement diplomatique avec la Libye, qui souhaitait lutter contre le terrorisme et les actes perpétrés par Al-Qaïda. Toutes les activités d'Amesis respectent strictement les exigences légales et réglementaires des conventions internationales, européennes et françaises.
Alors là, on est où ?
On est dans mon petit chez-moi, donc mon bureau, mon salon.
Combien d'ordinateurs ?
Deux ordinateurs, trois, quatre.
Quatre ordinateurs ?
Quatre machines, oui.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je suis Olivier Lorelli, plus connu sous mon pseudonyme de Bluetooth que sous mon vrai nom.
Pseudonyme sur la toile ?
Pseudonyme sur Internet, effectivement. Ouais, j'avais un blog qui s'appelait Bluetooth.com.
Alors, avec le site reflet.info, vous avez été un des premiers à alerter sur l'utilisation de techniques de surveillance électronique, la vente de ces programmes de surveillance par des entreprises françaises à des dictatures. Et notamment, vous avez pointé du doigt l'utilisation d'une technique qui s'appelle le DPI, Deep Packet Inspection. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, le Deep Packet Inspection, à l'origine, donc, on parle d'inspection en profondeur des paquets.
Des paquets de quoi ? De données numériques ?
Exactement. Ce qu'on appelle des paquets IP sur Internet, c'est le protocole qui permet aux informations de circuler sur Internet. Donc on prend souvent l'analogie d'un courrier avec une enveloppe. Le DPI il va ouvrir l'enveloppe et regarder le contenu en fait, du courrier. C'est tellement efficace qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui se sont demandé si c'était possible d'utiliser cette technologie pour intercepter des communications, lire le contenu des emails, des chats, de tout et n'importe quoi en fait. Et les progrès technologiques aidant, on a intercepté des flux de plus en plus importants jusqu'à arriver à des solutions qui sont capables d'intercepter toutes les communications d'un pays.
Ces entreprises concernées qui vendent ce type de technologie disent qu'ils vendent, qu'ils fournissent des briques technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? En soi, quand on entend ça, brique technologique, on se dit, bon, bah voilà, il n'y a pas tellement d'incidence, c'est pas particulièrement dangereux. Ça consiste en quoi exactement ?
Alors, on est vraiment dans de la novlangue. On peut parler de brique technologique, mais quand on livre en fait ce genre de matériel, ce qu'Amesis a vendu à la Libye de Kadhafi, c'est un système d'interception global, à l'échelle du pays, pour intercepter toutes les communications. On ne parle plus de brique technologique, on parle vraiment d'une arme numérique.
Pour vous, c'est vraiment une arme ? Le mot n'est pas trop fort ?
Non, pour moi, le mot n'est pas du tout fort. À partir du moment où on sait qu'on vend ça à un fou furieux qui va l'utiliser contre sa population à des fins de répression, on est bien dans le cadre d'une vente d'armes numériques.
Qu'est-ce que vous diriez pour résumer la force de frappe, l'impact de ces technologies, de cette technique d'inspection en profondeur des données ? Qu'est-ce que vous diriez ?
On compare ça à un réseau routier, par exemple, on a Internet qui est un réseau routier, et on a une douane volante qui fait des contrôles systématiques de toutes les voitures en dirigeant le trafic sur un seul point. Donc on va dire qu'il n'y a qu'une seule autoroute, et comme c'est le flux d'informations qui passe là-dedans, ben on intercepte tout. Vous êtes dans votre bagnole, on désosse votre bagnole, mais vous en rendez même pas compte.
Sauf que là, on désosse quoi ?
Là, on désosse vos communications, votre vie privée.
La sécurité nationale surveille le monde entier. Fax, téléphone, satellite, communication. Ce sont les seuls dans le pays, y compris les militaires, qui peuvent disposer de ce genre d'engin. Les voilà.
La société Amesis n'est pas la seule dans le collimateur de la justice.
Réception du faisceau satellite.
Une autre entreprise française, la société Cosmos, est visée par une plainte des ONG, cette fois pour du matériel vendu à la Syrie. Cosmos a répliqué en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse. Depuis avril dernier, le pôle génocide enquête dans cette affaire, une enquête particulièrement sensible. Créée au début des années 2000 par des universitaires de Paris 6, Cosmos est maintenant devenue une entreprise classée confidentielle défense liée au service secret français. En 2011, elle a reçu 10 millions d'euros du fonds stratégique d'investissement contrôlé par l'État français. L'un de ses anciens salariés en conflit avec Cosmos témoigne.
Je m'appelle James Dunn, je suis dublinois, irlandais donc, et j'ai travaillé chez Cosmos de 2005 à 2012. En même temps que mon arrivée chez Cosmos, Cosmos a décidé de se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux. C'est-à-dire un très puissant moteur de reconnaissance qui reconnaît tous les différents flux Internet, toutes les différentes applications utilisées sur Internet. C'est la possibilité de tout voir dans un flux Internet permet aussi donc de lire vos emails, de lire les pièces jointes, de lire les drafts que vous n'avez pas envoyés, de savoir où vous êtes, etc.
Alors, en octobre 2007, il y a une réunion au sein de l'entreprise. Vous posez une question à la direction à l'époque.
Le patron Thibaut Bechtois a organisé une réunion d'entreprise où il nous invitait à poser tout ce qu'on avait comme question à poser et où il n'y avait pas de questions tabou. Et donc, j'ai saisi cette chance pour envoyer à Thibaut Bechtois et à l'ensemble de l'entreprise un certain nombre de questions.
Il est là, hein, devant vous, ce mail. Je peux en lire un extrait. Donc, dans ce mail que vous envoyez à tous les salariés de Cosmos, le 24 octobre 2007, vous intitulez votre mail « Questions d'ordre éthique posées par moi à l'ensemble de l'entreprise ». Et alors, par exemple, à un moment, vous vous interrogez sur le fait que l'utilisation de la technologie Cosmos à des fins de fichage et d'interception pose des questions d'ordre éthique. Fichage et interception d'acteurs dits dissidents, opposants au régime, défenseurs des droits de l'homme, simples militants, etc. Si le gouvernement d'un régime qui enfreint certains droits ou valeurs considérés comme universels nous propose un important contrat, à quelles valeurs et à quelles exigences se tenir? Et vous poursuivez encore. Quel est alors notre code de conduite éthique? Et vous concluez, comment contrôler l'usage fait de nos technologies dans le domaine de l'interception ou même y voir clair quand nous sommes tenus au secret par des clients qui n'existent pas? Pourquoi écrivez-vous cela?
À ce moment-là, on commençait à non pas avoir des clients, mais à avoir des noms de code. Mais on n'avait aucune idée, en tant que salarié, qui était l'utilisateur final, à quoi servait cette solution, etc. La réponse en octobre 2007...
La réponse de la direction?
La réponse de la direction de Cosmos était que, bien sûr, Cosmos est une entreprise éthique, nous n'allons jamais travailler avec des dictateurs, etc. Mais on a essayé de nous rassurer.
Début 2011, survient un événement très important, c'est le printemps arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe, donc le renversement du pouvoir en Tunisie, en Égypte. Quelles conséquences ça a pour vous, cet événement-là?
En février 2011, les informations commencent à sortir par rapport à des contrats, par rapport à des activités, notamment l'utilisation par certaines dictatures de technologies de surveillance et de ce qu'on peut appeler la, la répression numérique. Il y a eu un article, le DPI est-il une arme ? Cette technologie d'inspection en profondeur des paquets numériques, est-il une arme ? Cet article contient aussi un vidéo, un entretien avec le patron de Cosmos, Thibaut Bechtol, où il se fait piéger dans un entretien, croyant être invité pour parler de la technologie Cosmos. Il se trouvait confronté à des questions d'ordre éthique par des journalistes, notamment est-ce que vous travaillez avec des dictatures, est-ce que votre technologie sert à des fins inavouables.
Votre technologie, la vôtre, pas celle de d'autres fabricants de DPI, n'est pas utilisée dans des pays qui ne sont pas des démocraties.
Non, et c'est pas notre métier.
Thibaut Bechtol, PDG de Cosmos, interrogé en février 2011 sur le site reflet.info.
Donc vous ne vendez qu'à des démocraties, en fait.
Non, on vend à des équipementiers réseau informatique.
Et vous ne souciez pas de ce qu'ils font avec, vous ne voulez pas le savoir et vous n'avez aucun moyen de le savoir.
On vend à des éditeurs et on vend à des intégrateurs. Voilà.
Vous assumez la responsabilité de ce qui pourrait être fait de vos technologies.
On assume la responsabilité, on fait en sorte, si vous voulez, que enfin, nos clients traitent le cadre juridique particulier, d'accord ? Et effectivement, les clients doivent traiter, effectivement, soit se conformer à une législation, soit prendre des décisions d'éthique sur ils font ou ils ne font pas.
Alors, je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité de l'usage qui est fait de vos technologies ?
Je pense qu'aujourd'hui, nos technologies sont utilisées pour des cas d'application qui sont utiles à l'entreprise ou aux opérateurs. Absolument.
Je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité des usages qui est fait de vos technologies ?
Je suis pas sûr de... Enfin, si le sujet...
C'est pas très compliqué comme question. Est-ce que vous assumez la responsabilité éthique, morale, juridique, comme vous voulez, même les trois en même temps, tant qu'à faire, des usages qui sont faits de vos technologies ?
Alors, nous gérons juridiquement et nous regardons d'un point de vue éthique pour faire en sorte que les technologies soient utilisées dans des cadres qui sont effectivement conformes à la juridiction et à l'éthique.
Alors, il y a un autre programme, cette fois le projet Asphador, destiné à la Syrie de Bachar el-Assad. Comment est-ce que vous découvrez l'existence de ce programme ?
Comme pour la Libye, je le découvre dans la presse en même temps que vous et d'autres. En fait, je suis très secoué dernier trimestre 2011, comme vous pouvez imaginer. D'autant plus que je vois que toutes les livraisons dans le cadre du projet Asphador,
en Syrie,
qui ont été programmées depuis des mois, aucun changement est intervenu, rien n'est supprimé, donc on continue comme si de rien n'était.
C'est contesté par Cosmos, hein ?
C'est contesté par Cosmos. Ce qui n'est pas du tout contesté, c'est que, encore en novembre 2011, on livrait de quoi permettre à Assad de réprimer son peuple et de surveiller et intercepter des communications sur Internet. On continuait en 2012 à fournir les mises à jour prévues depuis des mois.
Quelles preuves vous avez de ça ?
J'ai des livraisons détaillées pour les deux premiers trimestres de 2012.
Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on voit sur ce document qui apparaît sur votre écran ?
Donc, ici, nous avons les livraisons de produits et sa documentation pour la première moitié de 2012. Ça veut dire que nous continuons de livrer des mises à jour jusqu'en mai 2012. Là, je ne peux pas dire plus, puisque à partir du 20 avril, je ne suis plus dans l'entreprise Cosmos.
Et vous êtes licencié, finalement, en décembre 2012 pour faute lourde. Et vous êtes en litige, hein, avec votre employeur actuellement.
Oui, j'ai mentionné dans des commentaires sur certains articles sur le site Mediapart que j'avais connaissance de certains faits et que j'étais prêt à les livrer à la justice française.
Benoît Chabert, avocat de la société Cosmos.
Alors, Benoît Chabert, il y a une enquête qui est en cours pour complicité d'actes de torture. La société que vous défendez, Cosmos, est soupçonnée d'avoir vendu, fourni du matériel d'espionnage à la Syrie. Est-ce que c'est le cas ?
Jamais Cosmos n'a vendu directement un produit à la Syrie.
Et pourtant, il était bien question de vendre des sondes, du matériel destiné à l'arrivée à la Syrie.
Cosmos était le sous-traitant d'un sous-traitant qui était contractuellement lié avec un opérateur syrien. Donc dans le cadre de cette sous-sous-traitance, il y a eu en effet un projet qui a été mis en place et qui a été interrompu par Cosmos en octobre 2011, alors que celui-ci n'était pas opérationnel et alors que celui-ci n'était pas définitif.
Comment vous expliquez le fait qu'il y ait des témoignages de techniciens de Cosmos qui indiquent au juge d'instruction que, selon eux, le projet était toujours opérationnel à l'été 2011 et qu'il a continué d'être opérationnel jusque fin 2012?
Il n'y a absolument aucune raison de répondre sur des quand on relate des dépositions qui ont été faites dont je n'ai pas eu connaissance. Donc je ne peux pas parler de suppositions, je ne peux pas parler d'impressions, je suis simplement en face d'un dossier tel que je l'ai et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit.
Il y a d'autres témoignages, je pense notamment à l'ancien salarié de Cosmos, James Dunn, qui indique qu'après octobre 2011, il y a eu des programmes de réactualisation qui ont continué à être activés et qui ont continué à être respectés par Cosmos en Syrie.
James Dunn a saisi le Conseil des prud'hommes contre Cosmos. James Dunn fait l'objet actuellement de deux procédures diligentées par Cosmos en diffamation pour les propos qu'il a tenus. Donc je ne tiens pas à m'exprimer sur les propos de James Dunn.
Pourquoi avoir accepté ce contrat avec Utimaco et Area en Syrie, si c'est pour l'interrompre en octobre 2011? Par exemple, pourquoi envoyer un technicien sur place en Syrie du 8 au 14 janvier 2011?
Lorsqu'un projet est en cours, le projet est en cours.
Donc, à ce moment-là, il est question de le mettre en place.
Le projet est avec Cosmos et Utimaco et Area. Il y a un projet qui est en cours. La phase de développement du projet se met en place. Cela est tout à fait logique. Et puis en octobre 2011, Cosmos décide d'arrêter ce projet.
Mais pourquoi ?
Il décide d'arrêter ce projet dans la mesure où il considère que les règles légales qui se permettent de s'assurer qu'il y a un support légal qui peut regarder ce qui est mis en place n'existent plus.
Ils ne s'en sont pas aperçus avant.
Mais mettez-vous, je ne sais pas.
Non, mais c'est une question.
Non, mais c'est une question qui n'a pas de sens, monsieur.
Pourquoi ?
Parce que c'est une question qui est complètement fondée sur la subjectivité. Lorsque ce projet a été mis en place, Bachar al-Assad était invité avec tapis rouge à l'Élysée. Il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Il y a eu à un moment donné un président courageux d'une société qui dit « Nous arrêtons de façon unilatérale un projet qui est en cours. » Voilà.
Du monde. Pas le moindre fil pour trimballer virus ou mouchard. Ça ne laisse que les transmetteurs. Le gouvernement s'est mis à coucher avec toute l'industrie des télécommunications dans les années 40. Et ils ont tout infecté. Ils pénètrent dans ton compte en banque, des données informatiques, des emails. Ils mettent les téléphones sur écoute. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Le meilleur des mondes, il paraît. Enfin, ça devrait l'être. Dans le temps, il fallait qu'on branche un fil sur ta ligne téléphonique. Maintenant que les appels rebondissent sur les satellites, on les capte à la volée.
Isabelle Attard, députée du Calvados. Nouvelle donne.
Parti Nouvelle Donne.
Parti Nouvelle Donne, dont je suis coprésidente avec Pierre Larouturou et Patrick Beauvillard.
Alors, Isabelle Attard, vous êtes l'une des rares députées à suivre de très près ces questions de surveillance de technologies, d'exportation de matériel de surveillance des communications. Ces derniers mois, vous avez posé plusieurs questions au gouvernement sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez posé comme question et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Déjà, j'ai posé la question sur est-ce que, pour savoir si le gouvernement était bien au courant de ce qui se passait dans ces entreprises dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire Amesis Cosmos. Est-ce qu'il y a eu des autorisations de délivrer par l'État français ? Et est-ce que cette vente d'armes de guerre est encadrée par le ministère de l'Économie ?
Alors, qu'est-ce que le gouvernement vous a répondu ?
Rien. Rien, je n'ai pas eu de réponse encore aujourd'hui. Je n'ai toujours pas de réponse, ni à ma question au ministère de la Défense, ni à ma question au ministère de l'Économie.
Et il y a eu un avis qui a été publié au Journal officiel, je l'ai là sous les yeux, qui est daté du 6 décembre 2013. Un avis qui est destiné aux exportateurs, aux entreprises qui exportent des équipements d'interception de télécommunications mobiles, donc des portables, et qui font de la surveillance de communication sur Internet. Alors cet avis en fait met en place une autorisation administrative qui est valable 2 ans, délivrée par le ministère de l'Industrie. Est-ce que cet avis, est-ce que ce système mis en place vous satisfait ?
Il ne me satisfait pas du tout, puisque en fait, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit encadré, qu'on puisse reconnaître que ce sont des armes de guerre. Or, ce n'est pas avec cet avis qu'on va reconnaître que c'est une puissance d'armement que de surveiller une population entière. On parle d'une arme absolument incroyable qu'est la surveillance généralisée d'une population. On m'avait répondu déjà avec Laurent Fabius que c'était considéré comme de la technologie grand public. Ce n'est pas de la technologie grand public, c'est de la technologie de guerre.
Ça, c'est ce qu'on vous a répondu au tout début, lors de vos premières questions.
Oui, c'était le cas lors de la première question adressée au ministère des Affaires étrangères.
Donc, vous souhaiteriez que soit mise en place, comme pour l'exportation de matériel de guerre, un réel dispositif pour donner un feu vert pour exporter ce type de technologie de surveillance numérique.
Qu'on puisse donner un feu vert ou pas à l'exportation de ce type de matériel, oui. Les technologies évoluent tous les jours, en tout cas en ce qui concerne des pays et la surveillance généralisée de nos communications. Nous devons aussi légiférer rapidement et nous mettre en adéquation avec cette nouvelle technologie. Si aujourd'hui les armes de guerre, ce sont massivement ce type d'outillage, alors on doit les traiter comme des armes de guerre, comme des Kalachnikovs ou bien des bombes à retardement.
En attendant une éventuelle évolution de la législation, les victimes libyennes espèrent beaucoup de la procédure judiciaire en cours. Mais rien n'est plus pareil pour Salah, ce comptable de 47 ans.
J'ai toujours peur que quelqu'un prenne à nouveau le contrôle de mon ordinateur ou m'espionne avec ma webcam. Avoir été arrêté et torturé m'a vraiment fait prendre brutalement conscience que j'étais sous la surveillance du pouvoir libyen. Ça m'a fait perdre toute confiance dans les technologies informatiques.
Et aujourd'hui encore ?
Oui, regardez mon ordinateur. J'ai masqué l'objectif de ma webcam.
Là, vous avez mis un sparadrap blanc pour cacher l'objectif de votre webcam sur votre ordinateur, la portable que vous avez devant vous.
Dès que je rentre dans une pièce, la première chose que je fais, c'est d'essayer de repérer où sont cachées les caméras. Dès que je vois un policier, je ne suis pas rassuré. Sur Facebook, c'est pareil. Tous mes contacts ont des comptes Facebook sous leur véritable nom. Moi, je ne peux pas faire ça. Sur ma page Facebook, j'ai masqué mon identité. Pendant ma détention, j'ai été réduit à l'état de choses. J'ai été humilié. Je ne peux pas l'oublier. Ça me rend malade, aujourd'hui encore. Cette douleur morale est plus douloureuse encore que la douleur physique. Vous, en France, vous avez la chance d'avoir une justice qui fonctionne. On espère avoir un jour en Libye un système comme le vôtre. En attendant, on espère que votre justice nous rendra justice.
Internet, arme française de répression massive, c'était un reportage de Benoît Colomba. Prise de son Arthur Gerbeau, mixage Manuel Couturier. Nous avons invité ce matin pour poursuivre après ce reportage Jean-Marc Manac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions liées à Internet. Vous avez publié en 2012 sur Internet un livre électronique au pays de Candie qui évoque également cette question et notamment la société Amesis. Comment est-ce que la France est devenue un pays en pointe sur ces questions, sur ces technologies-là ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a eu donc ce contrat qui a été signé avec Kadhafi, avec la société Amesis, qui a pu tester la technologie d'interception massive à l'échelle d'un pays. Et donc, comme ça a été créé à la demande d'Alassane Houssi, donc le beau-frère de Kadhafi, qui était un terroriste par ailleurs condamné en France, comme ça a marché, et ben ensuite, Amesis a pu le vendre à d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et c'était une des premières fois où une entreprise privée crée un système de surveillance massive de la population à l'échelle d'un pays. La deuxième raison, c'est grâce à Cosmos, parce que Cosmos s'est imposé assez rapidement comme un des leaders mondiaux en matière de Deep Packet Inspection, donc l'inspection en profondeur des paquets, le fait d'arriver à faire le tri assez rapidement entre tout ce qui a trait aux mails, tout ce qui a trait aux vidéos, pages qu'on regarde sur le web, et à l'intérieur de ça, arriver à identifier ce qu'on a, les fameuses métadonnées, qui écrit à qui, quand, au sujet de quoi. Et donc, comme Cosmos s'est imposé comme un des leaders mondiaux, les services de renseignement français se sont intéressés à Cosmos, ont travaillé avec Cosmos, Cosmos travaille avec les services de renseignement français, et il se dit aussi que Cosmos équipe d'autres pays. Mais maintenant, Cosmos ne vend plus, suite au scandale avec Bachar el-Assad en Syrie, Cosmos ne vend plus à des entreprises privées, mais c'est une technologie qui est négociée d'État à État.
Quel est peut-être l'intérêt des services français d'être liés à ce point-là, à ces entreprises ? On comprend que c'est une technologie sensible. C'est pour l'utiliser eux-mêmes ? C'est pour pouvoir avoir un regard un peu sur ce que font les autres pays avec ? On le sait ou pas ?
J'avais assisté à une conférence de Bernard Barbier, qui était le directeur technique jusqu'à l'année dernière de la DGSE, et qui a considérablement boosté les capacités d'interception et d'analyse des télécommunications au sein de la DGSE. Et il avait fait une conférence il y a quelques années où il disait que la France était dans le top 5 des nations en matière d'interception des télécommunications. Et le fait d'être arrivé à ce top 5-là des nations repose en partie, pas seulement bien évidemment, mais en partie sur Cosmos, et que il voulait pas regarder la NSA, le GCHQ, qui est l'équivalent britannique de la NSA, être uniquement les leaders. Ils voulaient eux aussi, la France voulait elle aussi être en pointe en matière de renseignement électromagnétique, enfin ce qu'on appelle le renseignement électromagnétique.
Alors vous avez dit qu'on la vend à d'autres pays, là on a parlé dans le reportage de la Libye, de la Syrie. Quels sont les autres pays dans lesquels on peut retrouver cette technologie française ?
Alors bien évidemment, il n'y a pas de transparence là-dessus. Ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est qu'il y avait, Amesis avait donné un certain nombre de noms de code, qui étaient des noms de bonbons en fait, à ses différents clients. Et donc il se dit que le système Eagle d'interception des télécommunications aurait été vendu au Maroc, aurait été vendu au Gabon, au Kazakhstan. On a 5-6 pays comme ça, le Qatar également. Le problème, c'est que comme on n'a pas de transparence, on ne sait pas si c'est encore aujourd'hui utilisé. La seule preuve qu'on ait eue, c'était effectivement en Libye, au moment de la libération de Tripoli, et on a trouvé le logo Amesis dans le centre d'interception des télécommunications des services de renseignement libyens.
Les noms de code de bonbons, d'où le titre de votre livre au pays de Candie. Ouais. On a effectivement Candie, beaucoup d'imagination.
Candie, c'était le nom de code de la Libye. Doha, ils ont donné Finger, parce que Doha coupe fin. Crocodile, c'est au Gabon. À chaque fois, ça fait référence à un imaginaire qui est celui des salles de cinéma, des publicités qu'on voyait dans les salles de cinéma dans les années 80.
Alors, ces technologies, elles sont inquiétantes quand elles sont aux mains de régimes dictatoriaux ou peu démocratiques, on peut le comprendre. Est-ce qu'elles sont inquiétantes aussi lorsqu'elles sont aux mains de démocratie ? Parce que c'est quand même des technologies très intrusives de surveillance massive.
La NSA, enfin les États-Unis disaient depuis des années qu'ils n'espionnaient pas les Américains. Les révélations Snowden ont montré que c'était faux. La DGSE dit depuis des années qu'elle n'espionne pas les Français. On n'a pas de preuves que la DGSE fait du massif en France. Il y a une différence également entre la France et les pays anglo-saxons. On sait que le GCHQ, donc les Britanniques, et la NSA américaine font du massif. C'est-à-dire ce qu'ils expliquent, c'est que pour choper l'aiguille dans la botte de foin, ils prennent toute la botte de foin. Et ensuite, il nettoie la botte de foin pour ne se focaliser que sur les seules aiguilles.
Mais il nettoie, ça veut dire qu'il lise tous nos mails, nos correspondances?
Ils ne lisent pas, ils vont passer justement par des filtres, par des technologies type celles déployées par Cosmos, pour arriver à discriminer les communications. Ils jettent à la poubelle la majorité, et ensuite, ils vont passer ça au tamis, mais comme un chercheur d'or. Et au final, comme un chercheur d'or, et ben ils vont vraiment regarder que les pépites, pour savoir si c'est réellement des pépites ou pas des pépites.
C'est la machine qui fait le boulot.
C'est la machine qui fait le boulot, et ensuite, à la fin, il y a un être humain qui va vérifier. La culture en France, que disent en tout cas les officiels du renseignement en France, c'est qu'aux États-Unis, ils pêchent au chalut, en France, on pêche au harpon. Donc ils font du ciblé, pas du massif. Maintenant, la DGSE ne communique pas non plus, donc on n'a pas de preuves, on n'a pas de... que c'est bien ce qu'ils font. Et si les Français peuvent être espionnés, c'est pas tant par la DGSE que par la DGSI, le nouveau nom de la DCRI.
Est-ce que la législation a un peu évolué ces derniers temps? Où on en est sur ce point? Parce que je crois que le paradoxe, c'est que ces technologies sont plus contrôlées en France qu'à l'export.
Alors c'est une grande hypocrisie des autorités françaises. Quand on leur a demandé, du temps de Sarkozy comme du temps de François Hollande, pourquoi vous avez autorisé l'exportation du système Eagle à Kadhafi, à un dictateur, alors qu'on savait que c'était une arme de surveillance qui visait les civils. C'est pas comme une Kalachnikov ou un char d'assaut. C'est pas pour lutter contre des ennemis étrangers. C'est vraiment pour espionner des civils et donc potentiellement des défenseurs des droits de l'homme ou des dissidents. La réponse à l'époque qu'avait donnée le ministère des Affaires étrangères, c'est qu'il n'y avait pas de régulation internationale, il n'y avait pas de texte de loi au niveau international qui définissait ça comme une arme. Sauf que là où c'est complètement hypocrite, c'est que si un client français voulait acheter le système Eagle, il devait demander l'autorisation à Matignon. En France, on n'a pas le droit d'acheter le système Eagle, par contre on a le droit de le vendre à un dictateur. Autre forme d'hypocrisie, Amesis a revendu son système à une boîte française qui a créé une filiale au Qatar. Et donc, comme cette filiale est immatriculée au Qatar, elle n'a probablement pas besoin de demander l'autorisation aux autorités françaises, quand bien même c'est une spin-off d'une entreprise française qui est à Boulogne-Billancourt qui s'appelle Nexa Technologies.
Une spin-off, c'est-à-dire ?
En fait, c'est l'ancien responsable du système Eagle au sein d'Amesis qui a reçu de l'argent de la holding qui était au-dessus d'Amesis pour racheter le système Eagle à Amesis. Et donc, il a quitté Amesis avec les salariés d'Amesis pour faire, à 300 mètres de là, créer une autre nouvelle entreprise qui s'appelle Nexa Technologies, qui elle-même a créé une filiale au Qatar qui s'appelle Advanced Middle East System. Et Nexa vend des choses qui sont, entre guillemets, légales en France. Et par contre, tout ce qui est Eagle, système de surveillance massive des télécommunications, c'est via cette boîte au Qatar. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au salon Millipol l'année dernière, il y avait donc cette boîte Qatari qui avait un stand à Millipol, mais c'était des Français qui étaient derrière le stand, et c'était ces mêmes Français sur lesquels j'avais enquêté, qui ont créé le système et vendu le système à Kadhafi.
Merci Jean-Marc Manac. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe, attachée de production Christine Kern. Bon dimanche et à la semaine prochaine.